14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio. Michel Cotta publie Le Brun et le Rouge chez Robert Laffont avec Robert Namias, de la politique fiction d'anticipation. Décidément, en 2025 cette fois et non pas en 2030 comme chez Philippe Djian, l'extrême droite a pris le pouvoir et que se passe-t-il? Réponse dans le roman. J'ai profité de l'occasion pour rendre visite à Michel Cotta. Je me demandais si je trouverais des romans dans sa bibliothèque et pas que des livres politiques. Eh bien, ouf, la réponse est oui. Allons-y. Bonjour Michel Cotta.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de livres. Il y a deux pièces principalement où il y a des livres. J'ai vu le bureau avant d'ouvrir les micros. Mais là, je voulais quand même qu'on commence ici. Parce qu'il y a la Pléiade.
Il y a la source de la vie, c'est-à-dire la Pléiade avec... ça commence au XVIe siècle et puis par ordre décroissant, le XXe est là, les étrangers sont là. Il faut dire que c'était plutôt mon mari qui s'en occupe et que moi je me contente de le lire. Mais du coup, ça entretient une familiarité avec les classiques, vous voyez, qui fait que... Et puis surtout avec les différents écrivains que moi j'ai ratés, par exemple. Je dis ça parce que j'ai raté Romain Gary. Et à l'occasion de sa Pléiade, j'ai relu tout Romain Gary. Et je me suis aperçu que c'est un écrivain extraordinaire et qui, pour moi, avait été, quand je l'ai connu dans le Paris de 1960-70, un aimable mondain ambassadeur. Et ben, je m'étais complètement trompée. Mais voilà, ça me permet des années plus tard de revenir sur des lectures, ou plutôt des non-lectures du passé.
Ça me fait plaisir parce que pour tout vous dire, quand je suis arrivé en taxi avec Julien, l'ingénieur du son, je me suis dit, ça va être bien, il va y avoir beaucoup de livres chez Michel Cotta, mais il n'y aura que des essais. Moi, ce que je préfère, c'est les romans. Et en fait, pour tout vous dire, j'en ai visité des bibliothèques. Je n'ai jamais vu la collection complète de la Pléiade comme ça sur plusieurs murs. Quoi. C'est très, très impressionnant. Mais donc, vous aimez les romans quand même?
Ah ben, je lis des romans tous les soirs. C'est-à-dire, mais je lis Balzac autant que Jules Verne. Victor Hugo, par exemple, on a relu l'autre jour l'intégralité des Misérables. Je peux vous dire que... Ouais. Voilà. Mais autant Dickens, que j'adore... que les Français, beaucoup, beaucoup de romans, et même uniquement des romans, bien sûr.
Qu'est-ce que vous cherchez, outre le divertissement dans le roman et l'information dans le livre politique, qu'est-ce que vous cherchez dans l'un et dans l'autre? Et quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que vous préférez lire?
J'aime beaucoup lire les livres politiques. Par exemple, je viens de lire le dernier livre de Jackson, d'un écrivain, d'un professeur anglais sur De Gaulle, qui est formidable. Je suis en train de lire le Churchill, par exemple, qui est non moins formidable, mais qui est sur ma table de chevet en ce moment.
Mais qu'est-ce que vous trouvez dans le roman qu'on ne trouve pas dans le livre politique, ou l'inverse d'ailleurs?
L'imagination, d'abord. L'imagination, puis l'écriture. L'écriture, quand on... l'écriture de Victor Hugo, c'est pas celle d'Honoré de Balzac. Stendhal, c'est Stendhal. Flaubert, quand même, on lit Bouvard et Pécuchet en se marrant, alors que... Vous voyez,
il n'y a pas assez d'efforts de style dans les livres politiques d'aujourd'hui et des...
Ben, c'est pas le style qu'on juge. C'est pas le style qu'on juge. Là, c'est... ça fait rêver, moi, tous les romans de Dickens, par exemple, que j'ai adoré, m'amènent dans un autre monde. C'est la connaissance d'un autre monde, voilà. Tandis que la politique, c'est la connaissance de mon monde.
Magnifique. Alors, il y a juste un couloir qui nous emmène dans votre bureau tout là-bas. On va le prendre parce que... Alors, c'est... Ah, c'est quoi dans le couloir? D'ailleurs, je n'avais pas vu les livres, là.
Ça, ce sont des livres...
Ils sont très hauts.
Non, ils sont très hauts, mais ils sont surtout sur la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, d'accord.
Ils sont les livres de tous les collaborateurs, le plus important des collaborateurs de la guerre. Parce que j'ai fait une thèse sur la collaboration. Et donc j'ai fait une thèse là-dessus, mais du coup j'ai considéré que ces livres étaient, qu'on pouvait un peu les exiler, quoi.
Alors là on est dans votre bureau, il y a un petit bureau avec un ordinateur, et puis des livres tout autour, dans toute la pièce, qui doit faire une pièce qui doit faire peut-être 15 mètres carrés, bon. Et tous les murs en fait sont tapissés de livres, alors ce ne sont à première vue que des livres politiques, des livres de journalistes
mal classés,
ou
mal classés.
Ah oui, mais alors enfin, justement, est-ce qu'il y a un classement
voilà,
ou...
Globalement, voilà. Globalement, mais c'est trop global. De temps en temps, je ne le retrouve pas et je le recommande sur Kindle immédiatement. Mais enfin, bon, disons que tout ce qui est le communisme de l'entre-deux-guerres est là. Tout Mitterrand est à côté avec la gauche.
Oui, forcément.
Avec la gauche. Là, ce sont les essais plutôt autour de Le Pen. Et, bon, au-dessus, il y a tous les livres consacrés à Chirac et de Chirac qui sont là. Au-dessus encore, tous les livres consacrés à Sarkozy et à leurs proches. Là, il y a le général de Gaulle. Comme vous voyez, c'est là où il y a le plus de livres.
On parlait du style, les mémoires de Gaulle, il y a du style. C'est écrit magnifiquement.
Les mémoires de Gaulle, c'est formidable. Mais quand vous lisez les mémoires de Gaulle, ou même quand vous lisez du Mitterrand, qui est aussi d'une bonne facture, vous oubliez le style derrière les personnages et les actions. Donc c'est pas tellement le style que vous jugez. Oui, vous vous dites à De Gaulle là qu'il y a quand même quelques mots formidables, quelques phrases, mais encore une fois François Mitterrand aussi. C'est pas tellement ça que vous jugez.
Est-ce que vous avez une pièce maîtresse dans tout ça? Je sais pas moi, un livre dédicacé ou une édition originale ou un truc qui vraiment c'est celui que vous prenez s'il y a le feu quoi.
Alors celui que je pense s'il y a le feu, mais c'est le plus grand et il est dans la pièce à côté. Venez voir. Mais alors c'est très grand. Ça m'étonnerait que j'arrive à le transporter, mais je l'ai mis là comme un
intrigué.
Et qui est
ah oui d'accord. Oui.
Alcool d'Apollinaire, voilà.
Alcool d'Apollinaire et c'est la version manuscrite aux éditions voilà. Des Saint-Pères dans son beau coffret.
Voilà.
Je l'ai aussi pour tout vous
ah
dire.
Bon
c'est magnifique. C'est les éditions des Saint-Pères qui font ça, qui font des facsimilés. On a l'impression qu'on touche l'original. Et votre premier livre, il est là.
Le premier.
Celui
livre.
Que vous avez publié vous. Le premier,
oui,
le tout premier.
Ah, le tout premier, non, il n'est pas là parce que c'était un numéro spécial fait avec Jean-François Revel quand j'étais très jeune sur des élections. Donc ça n'est pas un livre, ça n'a jamais été édité en livre. Mais enfin, c'est un souvenir auquel je tiens.
Mais Jean-François Revel, on peut en dire
voilà,
un mot, c'était
là,
un personnage incroyable.
Non, ça, c'est Le Monde. Ben oui, j'ai travaillé.
Comment vous avez. C'était parce que vous étiez à l'Express, non comment
c'est ça, j'étais à l'Express.
Il était
donc,
directeur de l'Express à l'époque.
Non, il n'était pas encore directeur de l'Express, il était chroniqueur à l'Express. Et il m'a demandé, on lui a demandé de faire quelque chose sur les élections de 1965, voilà, le voyant.
Les élections présidentielles, on dit l'élection présidentielle
oui, aujourd'hui, maintenant on dit
non
les élections, oui, là, et ça datait.
Ouais, c'est marrant.
Et c'était la première, hein. Je veux dire, la première.
Jean-François Revel. Vous me dites un mot de Jean-François Revel, du personnage?
Pour le coup, moi je suis admiratrice de son style, qui est quand même unique et formidable, qui n'est pas un style journalistique, qui est un style d'écrivain, hein, vraiment. Et puis bon, c'était quelqu'un à la fois de très rigolo, mais dont de temps en temps, effectivement, la facilité vers l'alcool l'amenait à déraper un peu, mais on aimait ses dérapages aussi. Et donc, voilà. Enfin,
vous ne bougiez pas en travaillant, quand même?
Non, pas, moi pas.
Ça ne vous a jamais lassé, la politique?
Écoutez, jamais. Voilà. Jamais, parce que rien ne se passe jamais comme c'est prévu, parce que on avance des théories formidables qui ne se réalisent pas. Il y a toujours des inconnus qui viennent bouleverser les choses. Et c'est vrai que aucun jour n'est pareil au précédent.
Vous n'avez jamais eu marre de la mascarade, quoi, de vous dire bon, votre numéro, là, on le connaît par cœur, les enfants?
Non, mais je le connais par cœur, les numéros, je le reconnais par cœur, à tel point je pourrais les faire moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ralentit quand même mes interviews avec les hommes politiques, parce que j'avais l'impression que je pouvais répondre à leur place, ouais, qu'ils allaient me dire.
Mais justement, ça
mais
ça
non,
lasse pas.
Non, je trouve que c'est. Je trouve que, après tout, ce sont des gens qui, quand même, ont pour la plupart un sens de l'intérêt général. Je crois qu'on doit être deux en France, c'est Alain Duhamel et moi, à être persuadés que, quand même.
À les aimer un peu.
Pas à les aimer, à dire qu'il y a des pourris, mais qu'ils ne le sont pas tous pourris. Et que l'intérêt général, c'est quand même mieux que l'intérêt particulier.
Les hommes politiques sont des personnages de romans, mais les écrivains politiques ou les journalistes politiques qui écrivent des essais sont aussi des personnages, souvent. Vous êtes un personnage, Catherine Ness est un personnage, Françoise Giroud, Philippe Tesson, il y a quand même des personnages là-dedans.
Des personnages.
Des personnalités fortes, au moins.
Je ne sais pas, mais. Ce qui m'intéresse, c'est les autres, quand même. Donc, ce qui m'intéresse, sont les autres. Par exemple, il y a les deux livres de Chirac, ses mémoires, qui sont tout à fait beaucoup plus intéressants que ce qu'on a dit, dans lequel il y a beaucoup de choses, et dans lequel on voit un Chirac différent de ce qu'on pensait se dessiner. Donc, vous voyez, c'est vrai. On tourne autour de ces personnages qui font l'histoire immédiate, donc qui ne savent pas qu'ils font l'histoire en la faisant. Et puis, il y a ceux auxquels, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse? Pourquoi est-ce qu'on s'est tellement intéressé à Chirac? On l'a vu à son enterrement, alors que, comme vous savez, lorsqu'il a été élu, il n'a jamais eu au premier tour plus de 20% des voix, et même plutôt moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche la sympathie d'un homme? Pourquoi était-il sympathique, cet homme qui était quand même à la tête d'un parti, à la tête d'un clan?
Il l'était vraiment?
Comment est-il?
Ou c'est l'image qu'on s'en fait?
Ah oui, tout à fait. Non, c'est pas l'image qu'on s'en fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelqu'un qui... On peut pas dire la même chose de tout le monde, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait comme... qui a toujours l'autre comme préoccupation, ce qui est quand même pas mal, et c'est pour ça qu'il a tellement réussi en province. C'est parce qu'il avait toujours cette essence forcée,
c'était sincère,
sans qu'on le lui dise, qu'il disait comment va votre petit garçon, est-ce qu'il est sorti de l'hôpital, vous voyez. Alors ça marque. Enfin, mais vous faites le lien, c'est marrant, parce que je n'y ai jamais vraiment pensé, vous faites le lien entre mon amour du roman classique et mon amour des livres politiques.
Bah, je ne suis pas venu pour rien.
Voilà.
Merci Michel Cotta, merci beaucoup. De retour en studio, Le Brun et le Rouge. C'est le titre du roman de Michel Cotta chez Robert Laffont, coécrit avec Robert Namias.